BFM Business, BFM Crypto, les pros. Guillaume Sommerer.
L'avenir a de nombreux domiciles, mais sa résidence principale est sans doute ici dans les blockchains et les cryptos, les pros des cryptos. À domicile chaque vendredi, on est ravis de vous retrouver en direct. Nos NFT à nous sont là, ils répondent à l'appel. Le BFM Business, nos talents non fongibles. Claire Balva, bonjour Claire.
Bonjour Guillaume.
Bienvenue, experte crypto indépendante. Owen Simonin nous accompagne également. La chaîne YouTube Asher, il est à la tête aussi de Meria. Bonjour Owen.
Bonjour.
Content de vous retrouver dans un instant. Bien sûr, on parcourra l'ensemble de l'actualité de la semaine pour une grosse vingtaine de minutes. Mais d'abord, Vincent Gann nous appelle. Bonjour Vincent.
Bonjour Gann.
Analyste technique indépendant. Quelle semaine, Vincent, sur le Bitcoin, le cours du Bitcoin qui a démarré la semaine avec un puissant gap haussier au-dessus des 40 000 dollars. On l'a vécu jour après jour grâce à Amaury Tonquédec dans BFM Crypto, le club, chaque jour à 15h. Et effectivement, ça a été une superbe semaine sur le cours du Bitcoin. Quel diagnostic technique faites-vous pour la suite?
Effectivement, cher Guillaume, alors, le contrat futur Bitcoin, il a bondi dès le début de semaine en ouvrant ce trou de cotation haussier qui a permis de faire sauter le verrou technique, vous venez de le mentionner, des 38 000, 40 000 dollars. Alors, au-delà d'être un chiffre rond, c'était un obstacle graphique majeur parce que ça représentait grosso modo les deux tiers du grand marché baissier de 2022. Là, c'est lorsqu'on utilise une échelle logarithmique et plus de la moitié du marché baissier de 2022. En échelle additive. Donc oui, c'est un niveau technique qu'il fallait faire sauter pour confirmer en fait ce que fait Bitcoin depuis l'automne 2022. C'est une tendance haussière bien construite, les résistances sautent les unes après les autres. Mais là, c'est vrai qu'en termes de momentum, on a une accélération. Ça tranche par exemple avec la pause de plusieurs mois l'été dernier. Alors désormais, Bitcoin fait 150% de hausse depuis le début de l'année, peut-être même davantage. Wow. Ce qui est toujours assez marquant, c'est que Bitcoin reste à la fois leader par rapport aux autres classes d'actifs et toujours, même si certaines altes ont démarré, et même plus que démarré pour certaines, reste toujours leader dans son propre camp. On n'arrête pas de se demander quand est-ce que Bitcoin enfin passera le témoin à d'autres altes majeures comme Ethereum. D'ailleurs, enfin, je vais en dire un mot. Mais bon, bref, voilà, on a une dominance maintenant de 55%. Alors, pour revenir à des considérations techniques de court terme et répondre à votre question, voilà, 44 000 dollars, bon, c'est une nouvelle résistance technique. Elle remonte à mars 2022. Je ne sais pas si c'est une résistance qui va permettre de marquer une pause ou pas. Mais ce que je pense, moi, c'est qu'un mouvement haussier, plus il est construit, plus on prend le temps de marquer une pause, de faire au moins des phases latérales après des impulsions comme ça, plus derrière, le marché pourra développer sa hausse de manière beaucoup plus forte. Et seconde observation, petit à petit, mais c'est pas encore un mouvement majeur, massif, Bitcoin passe le témoin à certaines altes. Et voilà, moi j'ai le sentiment cette semaine qu'on a eu un premier passage de témoin, un petit témoin en tout cas, à Ethereum. Donc je ne serais pas surpris que le cross ETH-BTC soit dans une zone d'entrée de long terme maintenant.
Et vu la vitesse à laquelle Bitcoin est monté toutes ces dernières semaines et encore plus peut-être cette semaine, est-ce que vous voyez pour le coup un risque fondamental, immédiat de piège haussier pour les investisseurs, Vincent?
Oui, alors bonne question, mais c'est ça que vous en parlez toujours sur votre antenne. Le risque immédiat, il est le fait que le marché a mis tous les œufs. L'expression ne me revient plus, mais la probabilité, si vous voulez, que les ETF Bitcoin Spot soient validés, que ce soit celui de BlackRock, que ce soit celui de Grayscale, ou encore ArcInvest, il dépasse 90% pour le courant du mois de janvier. Donc c'est là où il y a un vrai piège, ne serait-ce qu'un report dans le temps un nouveau report dans le temps de la décision de la SEC représenterait effectivement un risque de forte baisse du compte Bitcoin.
Merci beaucoup. Vincent Gann, en direct avec nous, analyste technique. Et pendant une grosse vingtaine de minutes, on va parcourir l'ensemble des fondamentaux qui accompagnent la remontée des cours depuis quelques jours. La hausse du Bitcoin spectaculaire cette semaine. Peut-on déclarer fini, terminé l'hiver crypto? On posera la question dans un instant à nos pros des cryptos. On leur demandera comment ils vivent cette hausse qui n'est peut-être pas une simple anecdote. La COP28 et les obligations vertes. Tiens, sur Ethereum, c'est Société Générale qui émet ces obligations vertes. Qu'est-ce que ça change? Quelle perspective cela ouvre-t-il pour la finance sur la blockchain? Et puis l'ETF Bitcoin. Les demandes d'ETF Bitcoin, elles sont nombreuses. Il se trouve que BlackRock a mis à jour sa demande cette semaine. On se demandera ce que ça signifie et ce qui pourrait éventuellement encore clocher, retarder, voire empêcher une éventuelle approbation par la SEC. Voilà le menu des pros des cryptos cette semaine. Votre machine à condenser le temps s'active. On est parti. Bienvenue à tous.
BFM Business, BFM Crypto, les pros.
Grâce donc à nos pros, Claire Balva, en forme Claire?
Très en forme.
Quelle fougue en ce moment dans l'univers crypto. Owen Simonin aussi est avec nous. En forme, Owen ?
Toujours.
Non mais quelle fougue. Comment vivez-vous cette remontée du Bitcoin ? Alors on essaie généralement de laisser les commentaires sur le cours des cryptos plutôt à nos analystes techniques, mais là quand même c'est spectaculaire. On a franchi cette semaine la barre des 44 000 dollars. Le Bitcoin depuis le début de l'année s'envole de façon vraiment assez incroyable. Est-ce qu'on peut clairement, officiellement déclarer fini, terminé l'hiver crypto ?
Alors c'est dur de donner une date hein, sur la fin de l'hiver crypto, le début du bull run. Moi, j'ai presque tendance à me méfier parce que j'ai l'impression que c'est trop tôt ou que cette hausse est presque trop rapide. Mais c'est vrai qu'il y a des signaux qui sont très positifs. D'une part, l'arrivée probable prochaine des ETF. Et de l'autre, l'arrivée, alors un peu plus lointaine, mais pour le coup certaine, du halving. Donc cet événement qui consiste à diviser par deux la masse monétaire qui est émise sur Bitcoin. Et donc la conjonction de ces deux événements, forcément, elle donne des signaux très positifs sur les cours. Et je dirais que dans la manière dont moi je le vis, et dont la plupart des gens qui sont dans la crypto le vivent, ce qui change beaucoup, c'est la perception des gens qu'il y a autour. Et c'est vrai que là, ces derniers 18 mois... Mon entourage, enfin les gens qui ne sont pas dans la crypto et je connais, forcément se disaient bon bah de toute façon c'est passé de mode, c'est fini, et donc c'est vrai que voilà qu'on se sent un peu isolé et qu'on sent bien que les gens se demandent ce qu'on fait toujours dans la crypto. Donc là on sent d'un coup que ça change. En fait il suffit que le Bitcoin repasse certains seuils et tout d'un coup tout le monde autour de nous se dit mais en fait peut-être que c'est pas fini, peut-être qu'il faut que j'en achète. Et là pour moi c'était très révélateur cette semaine puisqu'au moment où Bitcoin a passé de nouveau les 40 000 dollars. D'un coup, dans un créneau d'une heure, j'ai eu trois coups de téléphone de journalistes qui écrivaient des articles. Et on a vu dans la soirée un déferlement d'articles de presse sur le fait que Bitcoin avait passé de nouveaux seuils. Et ça, c'est assez révélateur aussi de l'emballement médiatique qui se fait principalement sur les cours. Alors, plutôt malheureusement qu'heureusement, parce que les cours, c'est la face émergée de l'iceberg. Et qu'en dessous, il se passe en fait beaucoup de choses. Et ça fait 18 mois que l'écosystème ne s'est pas arrêté.
Owen, de votre côté, comment est-ce que vous vivez cette remontada, désormais spectaculaire, et est-ce que vous pensez, vous oseriez affirmer que ça y est, l'hiver crypto est terminé ?
Je n'aimerais pas l'affirmer parce que ce sont d'autres facteurs qui font que les crypto-monnaies, que le Bitcoin est aujourd'hui à plus de 40 000 dollars. C'est pas simplement le cycle que l'on a connu. C'est également une grosse attente poussée par ces fameuses ETF. On va y revenir tout à l'heure, mais on n'a pas de certitude. Et pour moi, d'un point de vue des cycles, si on a envie évidemment de partir du fait que les performances passées préjugent des performances futures, et on sait bien que c'est pas le cas. Bien que ce cycle se soit répété trois fois dans le monde des crypto-monnaies, eh bien c'est trop tôt si on regarde uniquement ce cycle qui a été suivi. Donc l'affirmer, bon, je ne suis pas trader, je ne suis pas là pour prendre de position, et plus j'avance, plus j'ai des convictions qui sont fortes, mais je n'ai beaucoup moins de certitude que quand j'ai commencé dans cet environnement. Ce que je sais en tout cas avec une certitude absolue, c'est qu'il y a aujourd'hui deux à trois fois plus d'intérêt pour les crypto-monnaies que quand elles étaient deux à trois fois plus basses. Et ça, c'est quand même sacrément intéressant à observer, même si, encore une fois, c'est quelque chose dont on a l'habitude. Il y a de nouveau une surmédiatisation de certains sujets. Ça intéresse de nouveau et ça pique la curiosité de beaucoup de monde. Certaines institutions qui prennent du temps à prendre des décisions arrivent enfin à obtenir de leur position alors qu'elles essayaient de se positionner depuis plusieurs mois. Et surtout, on voit des levées de fonds qui avaient du mal à se clôturer, d'écosystèmes, de start-up, de projets qui sont dans le monde de la crypto-monnaie, qui, tout le monde, on peut le dire, hein, tout le monde leur a tourné le dos pendant un an et demi, deux ans et demi, et commence à retrouver les faveurs des investisseurs et du marché. C'est une bonne chose, même si c'est de courte durée, parce qu'on ne peut pas le savoir évidemment. Eh bien, ce second souffle va remplir la trésorerie de certains projets crypto, mais également de leurs clients.
Alors, parmi les facteurs qui nourrissent la hausse, c'est effectivement le fait que le marché croît de plus en plus à l'approbation des ETF Bitcoin au comptant, peut-être pour début 2024. En attendant, BlackRock, cette semaine, a donné une morale à l'écosystème en mettant à jour sa demande d'ETF Bitcoin Spot auprès de la SEC. C'était donc il y a quelques jours. En quoi, Owen, consiste cette mise à jour par BlackRock, et est-ce que cette mise à jour augmente les chances d'approbation par le gendarme des marchés américains ?
Je vais être peut-être un petit peu critique, mais vous savez, dans les crypto-monnaies, il y a les moments où tout se passe bien, on a confiance au marché, et la moindre petite actualité positive va pousser les crypto-monnaies à la hausse. Et à l'inverse, quand tout va mal, la moindre news négative vient enfoncer les cours. Là, c'est vrai que BlackRock, c'est quand même devenu le sujet. La moindre modification, la moindre prise de parole d'un membre de BlackRock ou la moindre modification du dossier ETF, et tout de suite, c'est certain, les crypto-monnaies vont se valoriser. Alors, il est vrai, BlackRock a réalisé une mise à jour de sa demande d'ETF. Ils ont spécifié un nouvel auditeur, PwC, qui se rajoute à la liste. Des mesures supplémentaires en termes de LCBFT, donc de lutte contre le blanchiment d'argent et de lutte contre le financement du terrorisme. Et également des nouveaux efforts pour monitorer et suivre au mieux le prix des crypto-monnaies pour apporter encore plus de justesse à ce produit. Oui, ça muscle un peu la demande. Oui, ça augmente probablement les chances qu'elle soit acceptée. Maintenant, c'est vrai que ça a donné le sourire à tout le marché. Est-ce qu'il y avait vraiment de quoi donner le sourire à l'entièreté des investisseurs de cet écosystème sur cette news? Je ne sais pas.
Est-ce qu'on peut rappeler, Claire, qui concourt à l'approbation de son propre ETF Bitcoin? Parce qu'on parle énormément de BlackRock, mais c'est l'arbre qui cache la forêt.
Oui, il y en a une douzaine, en fait, des demandes d'ETF Bitcoin Spot, donc d'ETF Bitcoin au comptant. Alors, on ne va pas tous les citer parce qu'il y en a beaucoup, mais forcément, les plus emblématiques, c'est ceux pour lesquels le gestionnaire d'actifs a le plus gros montant d'actifs sous gestion. Donc, on parle de BlackRock, qui est le plus gros gestionnaire d'actifs au monde, qui a plus de 8000 milliards de dollars sous gestion. Le deuxième plus gros, ça doit être Fidelity, qui a un peu plus de 4000 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Ces deux-là, BlackRock et Fidelity, ils ont déposé une demande au premier semestre 2023 et la décision finale de la SEC devrait arriver au mois de mars 2024. Mais ils ne sont pas les seuls, évidemment, à attendre leur réponse. Il y en a plein d'autres qui attendent une réponse qui devrait, elle aussi, arriver en mars 2024. Je pense à WisdomTree, par exemple, ou VanEck, qui ont déposé des demandes d'ETF. Alors, WisdomTree, par exemple, ils ont déjà un ETF même en Suisse. Donc, ça peut être des acteurs qui sont finalement assez expérimentés aussi dans la gestion d'ETF. Mais celle qui est très, très scrutée, c'est celle d'Ark Invest. Pourquoi ? Parce que c'est celle dont la réponse finale devrait arriver le 10 janvier 2024. Et donc, si le 10 janvier 2024, la SEC approuve cette demande d'Ark Invest, eh bien, forcément, on va estimer que toutes les autres demandes devraient être approuvé, sauf évidemment s'il y a un couac dans ces demandes-là. Mais donc c'est la date du 10 janvier 2024 qui est très scrutée des investisseurs. Et puis après, encore une fois, il y en a beaucoup d'autres derrière. Je pense notamment à Grayscale, qui a un statut un peu particulier, puisqu'ils ont effectué une demande dès 2021 qui avait été refusée par la SEC en 2022. Et bien, à la suite de quoi, il y a eu des actions en justice. On en a beaucoup parlé sur ce plateau. Et Grayscale, depuis, est en négociation avec la SEC pour l'approbation de son ETF Bitcoin Spot.
Bon, première date à retenir, c'est le 10 janvier 2024. La semaine de la rentrée scolaire. On sortira, nous, des vacances et ça pourrait repartir comme une balle dans l'écosystème crypto. On va suivre ça de très, très près.
Ou pas,
effectivement. Avant même les premiers ETF Bitcoin au comptant, la démocratisation des cryptos avance. Elle avance à grands pas. C'est la question crypto qui claque. Chaque semaine, on pose une question qui fâche à nos experts. Est-ce que vous êtes prêts? Owen, est-ce que vous êtes prêts?
Oui.
Claire?
Prête aussi.
Vous l'aurez voulu. Selon vous, en 2030, un quart de la population française possédera-t-elle des cryptos? Claire?
Je dirais oui, mais pas forcément en direct.
Owen?
Oui, même en direct, je pense.
Fougueux. Vous aussi, chez vous, vous avez peut-être un avis aussi tranché que nos pros. N'hésitez pas à participer, bien sûr, sur nos réseaux sociaux BFM Crypto et à commenter. Owen, vous êtes sacrément optimiste. Vous pensez que, oui, en direct comme pas en direct, 25% des Français en 2030 posséderont des cryptos?
Je pense, oui, dans ces eaux-là. Tout simplement, déjà, parce que c'est la suite logique de la tendance. Si on regarde l'adoption qu'il y a eu, surtout dans les 6 dernières années. Ensuite, la blockchain et les crypto-monnaies n'ont que 15 ans. Là, 2030, c'est dans 7 ans. On parle donc d'un tiers de la vie de cet écosystème, alors que c'est dans ses débuts qu'il avait le moins de chances de survivre et le moins de chances de se développer. Maintenant, on ne sait pas à quelle vitesse, on ne sait pas exactement dans quelle direction, mais on sait que ça va être adopté. Ensuite, il y a les crypto-monnaies et les usages cryptographiques. C'est-à-dire que si les gens n'utilisent pas des cryptos d'un point de vue crypto-monnaie, crypto-actif, investissement, ils utiliseront des solutions basées sur des blockchains et basées sur de la cryptographie, que ce soit des NFT, que ce soit des méthodes d'authentification. Donc, est-ce que tout le monde détiendra de la crypto-monnaie en direct à hauteur de 25% de la population française? Je ne sais pas exactement. Est-ce que tout le monde aura des outils ou un portefeuille cryptographique dans les 7 prochaines années? C'est mon pari, oui.
Plus prudente, Claire?
Plus prudente parce que moi je trouve qu'il y a en fait il y a un effet de seuil souvent quand on regarde l'adoption des technologies qui est autour de 20% de la population. Et on remarque que quand 20% de la population adopte une technologie, souvent derrière ça s'accélère et ça va de plus en plus vite. Mais donc je saurais pas dire à quel moment on va atteindre ce 20%. Et donc selon quand on l'atteint, on pourra très vite passer à 25%, ou alors ça pourra traîner encore un petit moment en attendant ces 20% d'adoption.
Alors cette question, est-ce qu'on atteindra les 25% d'adoption en France en 2030, on vous l'a posé aussi sur nos réseaux sociaux, sur notre fil BFM Crypto d'ailleurs, chacun peut s'y abonner. Et cette question qu'on vous a posée, vous y avez répondu. Vous êtes une majorité à penser qu'effectivement en 2030, 25% des Français détiendront des cryptos. Vous n'êtes pas seulement une majorité à le penser, vous êtes carrément 73% à dire oui et seulement 27% à dire ce sera plus compliqué. Bien sûr, abonnez-vous et chaque semaine, on vous posera désormais aussi sur nos réseaux sociaux cette question crypto qui claque, la QCQC. C'est comme ça qu'on a décidé de l'appeler. Aux États-Unis, c'est déjà fait. Ils sont déjà à 25% d'adoption, Claire ?
Oui, alors j'ai vu une étude qui est parue cette semaine, une étude de l'entreprise Unchained. Alors je reste quand même prudente parce que c'est une étude qui a été faite sur un échantillon de 400 personnes. C'est très peu. Les autres études tournent plutôt autour de 20-22% de la population américaine qui aurait des cryptos. Il faut bien voir qu'aux États-Unis, le rapport qu'ils ont à l'investissement en général n'est pas du tout le même qu'en France. Ne serait-ce que quand on regarde leur système de retraite, les Américains sont amenés beaucoup plus que nous à gérer leur patrimoine en investissant régulièrement dans des actions, dans des obligations, dans différents actifs financiers. En France, on a beaucoup moins besoin de faire ça parce que l'État est beaucoup plus présent pour financer notre système social. Et donc, en France, c'est presque tabou parfois de parler d'investissement. On n'aime pas trop parler d'argent, alors qu'aux États-Unis, quand vous avez des conversations avec des amis, c'est très, très commun finalement de se dire, bah voilà, toi, t'as investi dans quoi? Moi, j'investis dans tel ou tel fonds. Est-ce que t'as investi en Bitcoin? Et donc, c'est plutôt logique finalement qu'aux États-Unis, il y a un appétit au risque plus important et qu'ils aient beaucoup plus investi en Bitcoin que chez nous.
Les pros des cryptos se poursuivent. Votre machine à condenser le temps, une semaine d'actu crypto en 25 minutes, rediffusion chaque vendredi soir à 21h30, et vous pouvez suivre aussi le replay sur notre site, notre chaîne YouTube BFM Crypto. La COP28 se poursuit à Dubaï jusqu'au 12 décembre. La finance émet de plus en plus de produits verts d'ailleurs. C'est dans ce contexte que Société Générale a cette semaine émis, non pas du CO2, mais une obligation verte.
Et alors,
c'est normal d'en parler. Ici, ce sont des obligations émises sur la blockchain, en l'occurrence, sous forme numérique, les amis, sur la blockchain Ethereum. Est-ce que c'est une première, Owen?
Alors, des obligations vertes qui ont exactement cet intitulé et cette fonction-là, peut-être, en attendant, ce n'est pas une première et surtout pas une première pour la Société Générale. En effet, bon, la Société Générale a une société fille qui est bien connue dans le monde de la crypto, qui s'appelle Forge, qui, on le rappelle, est la toute première société française à obtenir l'agrément PSAN, c'est-à-dire à être agréée, PSAN, et à ne pas simplement se contenter de l'enregistrement, qui est le premier niveau de régulation. Et pour le coup, la Société Générale avait, à travers cette société fille, déjà émis des obligations sur la blockchain Ethereum en 2017. Depuis, la blockchain Ethereum, qu'on soit pour ou contre ce choix technique, a évolué. Il y a eu ce qu'on appelle the merge, c'est-à-dire qu'elle n'est plus basée sur des mineurs de crypto-monnaies qui consomment de l'électricité. Elle a évolué sur un système de validation. On dit qu'on est passé du proof of work en un système de proof of stake, qui, pour le coup, a le mérite de consommer beaucoup moins d'énergie. Et, en l'occurrence, c'est bel et bien des obligations vertes, donc une levée de fonds et des fonds qui vont être investis pour soutenir des projets ou des activités qui vont naturellement soutenir des tendances en lien avec l'environnement. Et pour le coup, ce qui est intéressant, c'est de voir qui a souscrit à ce produit-là. Il s'agit d'AXA Investment et de Generali. Donc, on commence à avoir de plus en plus de très gros noms qui se positionnent non seulement derrière des produits crypto, entre guillemets crypto, parce que ça reste des produits financiers, mais qui pour le coup utilisent un support blockchain, et c'est quand même assez rare, un support aussi décentralisé qu'Ethereum, et non pas uniquement une blockchain qui est centralisée et qui est contrôlée, comme le font déjà certains établissements bancaires. Il faut également noter que AXA Investment a précisé avoir et utiliser pour la première fois le fameux jeton numérique EuroCV, qui est le stablecoin émis par la Société Générale elle-même.
La Société
Générale, c'est vraiment...
Oui, c'est vrai qu'elle est au cœur de l'actualité, mais ce n'est pas une première complètement, puisque vous le disiez, elle s'était déjà lancée en 2017. La Société Générale, qui a quand même marqué la semaine à double titre, elle avance aussi, Claire, sur son stablecoin Euro. Ils ont passé à la Société Générale un accord avec le market maker Flowdesk. En quoi consiste cet accord ?
Oui, alors c'est une nouvelle qui a beaucoup fait le tour du monde crypto cette semaine, parce que c'est, je trouve, la première fois qu'une banque, donc une institution qui est régulée, sort une initiative qui est vraiment en phase avec ce qui se fait généralement dans le monde de la crypto. Et donc on a un peu le meilleur des deux mondes ici. On a, je dirais, un stablecoin qui est basé sur la blockchain publique Ethereum. Donc, ce qui est déjà innovant, je dirais, pour une banque. Hein. On a d'autres banques comme JP Morgan, par exemple, qui ont essayé d'émettre des stablecoins, mais qui s'orientent plutôt vers des infrastructures privées, donc avec des droits d'accès restreints. Là, on est vraiment sur Ethereum. Et puis, un stablecoin qui va être listé sur une plateforme d'échange donc qui s'appelle Bitstamp, qui est une des plus vieilles plateformes d'échange. Je crois qu'ils ont été créés en 2011 ou 2012. Qui est européenne, qui est basée au Luxembourg. Donc c'est un choix assez logique de Société Générale d'aller privilégier une plateforme d'échange qui est ancienne, qui est européenne, etc. Mais donc on voit bien ici que c'est une initiative qui plaît finalement au monde de la crypto aussi, parce que elle s'inscrit dans des pratiques assez classiques d'émetteurs de stablecoins qui vont aller sur des blockchains publiques et faire lister leurs stablecoins sur des exchanges. Ce qui est intéressant quand même, ce que ça dit, c'est que là on a une institution bancaire qui s'oriente vraiment dans le monde de la crypto. Et donc, on peut se poser la question de savoir si les futurs stablecoins euros, rappelons qu'aujourd'hui, on a quand même un monde des stablecoins dominé par les stablecoins dollars, est-ce que les stablecoins euros, du fait de la réglementation, vont être émis par des grandes institutions, par des grandes banques, ou est-ce qu'il y a encore la place pour des acteurs émergents qui essaieraient d'arriver avec des nouveaux stablecoins euros? Rien n'est moins sûr.
On va parler de la fiscalité des cryptos également avec cette question d'une auditrice. Elle s'appelle Carmen. Oula, Carmen de Bizet. Merci la régie, c'est facile, merci la régie. Non mais ils sont très cultivés en régie, effectivement, ils ne peuvent pas s'en empêcher. D'ailleurs, les paroles de Carmen de Bizet s'appliquent bien à la fiscalité. Hein. Prends garde à toi, si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Tu ne l'attends plus, il est là, il vient, s'en va, puis il revient. Tu crois l'éviter, il te tient. Ça, ce sont les paroles de Carmen de Bizet, et on se demande s'il parle d'amour ou des impôts, en l'occurrence. Bon, donc l'impôt sur les cryptos et cette question de cette auditrice qui s'appelle, vous l'aurez compris, Carmen. Payer ses impôts en bitcoin est-il possible? Claire. Et merci la régie au passage.
Alors en France, non. Ou alors, si elle a trouvé comment faire, il faut me prévenir. Mais non, en France, c'est pas possible. On paye ses impôts en euros. Ah. Il me semble qu'il y a quelques pays ou régions plutôt où c'est possible. Je crois qu'en Suisse, il doit y avoir un ou deux cantons ou certaines villes où vous pouvez payer vos impôts en crypto. De même, aux États-Unis, il me semble que certains sénateurs ou gouverneurs ont pris des initiatives en ce sens. Mais en fait, souvent, ce qui se passe, c'est qu'on vous donne la possibilité, par exemple, de payer avec un compte PayPal. Mais derrière, l'administration publique qui réceptionne vos impôts n'a pas vraiment un compte, enfin une adresse Bitcoin. Elle reçoit l'argent en fiat, donc ça peut être du dollar, du franc suisse, de l'euro. Donc voilà, à ma connaissance, je ne crois pas qu'il y ait vraiment d'administration qui reçoive vos impôts en Bitcoin.
Lugano, hein, en Suisse, ils ont décidé de proposer, mais enfin bon, rien n'est complètement clair encore. En tout cas, voilà, cette auditrice Carmen qui nous interroge, pour l'instant, on n'y est pas encore, hein, sur le paiement des impôts en Bitcoin. On a moins d'une minute, Owen, on compte sur vous pour le faire en 30 secondes. La patronne de Franklin Templeton, immense société de gestion américaine, a annoncé, en tout cas, elle, posséder à titre personnel de l'Ethereum, des jetons de finances décentralisés et du Bitcoin. Elle a donc choisi, la patronne de Franklin Templeton, de ne pas écouter les conseils de Christine Lagarde, c'est ça?
Non seulement elle a choisi de ne pas les écouter, mais pour le coup, elle suit également une tendance de fond qui concerne la plupart des gros fonds de ce monde, la plupart des institutions qui veulent ou qui se positionnent directement sur les crypto-monnaies. Et globalement, elle précise avoir pris des positions en Bitcoin, en Ether, mais également sur certains jetons en lien avec la finance décentralisée, comme SushiSwap ou Uniswap, qui sont des protocoles décentralisés qui permettent d'échanger justement des crypto-monnaies sans tiers de confiance.
Voilà. Et puis, y a débat aussi hein, dans l'univers des patrons de la finance. La patronne de Franklin Templeton qui investit à titre personnel et puis le patron de JP Morgan, Jamie Dimon, qui dit lui qu'il faudrait interdire le Bitcoin. Ça a été l'un des propos forts de la semaine également. Merci à nos pros des cryptos, nos NFT, nos talents non fongibles. Chaque vendredi, Claire Balva. Merci Claire.
Merci.
Experte crypto indépendante. Owen Simonin, sa chaîne YouTube Asher. Il est aussi à la tête de Maria. Salut Owen. Maria régulièrement à nos côtés aussi. Dans les pros des cryptos, chaque vendredi, 15h, rediffusion à 21h30. Bon week-end, les amis.
BFM Business, BFM Crypto, les pros.